Salut à tous, c'est Squitom Chicago, numéro 1214, en ce samedi 2 décembre. J'espère que tout le monde va bien. Dans ce 1214e numéro de Sweet Home Chicago, deux belles interviews, les Beatles, un nouveau disque du mois, quelques Américains en blues électrique ou acoustique, le plein de blues pour la semaine quoi. En première heure, plein feu sur l'actualité du grand Fred Chapelier dans une interview réalisée au Souboc le 3 novembre dernier. Il évoque Jacques Dutronc et Thomas Dutronc, avec qui il a joué en 2010 et puis en 2022, mais aussi avec les Vieilles Canailles, dont il a fait partie jusqu'au dernier concert de Johnny Hallyday. Fred Chapelier évoque également sa carrière discographique, l'évolution du marché du disque, ses musiciens, l'importance de la musique live et de la survie des clubs, et puis également son prochain album live à paraître en février 2024. Une interview pleine d'humour et de professionnalisme, par l'un des fers de lance de la guitare blues en France. Le nouveau disque du mois est signé du couple Gladys Amoros et Michel Foison qui célèbre à travers les 11 titres de leur Golden Moments un quart de siècle de talent, de passion, de musique et d'amour. Nous en écouterons deux extraits. Le 38e épisode de Beatles Song Story par Jackie Emery nous ramènera au sein du dernier album des Fab Four, Let It Be, et plus particulièrement avec le titre Dig a Pony, dont une cover plutôt étonnante vous sera proposée. On démarre bien sûr avec ce disque du mois, nouvelle édition, Golden Moments par Gladys Amoros et Michel Foison. Ça s'appelle Hello New Orleans.
Let me walk along your street. I say hello, hello. Listen to music everywhere. Most of all the trumpet sound. Oh, listen to music everywhere. Most of all the trumpet sound. I can't explain the misery of New Orleans. I say hello. I will listen to your music. I say hello, New Orleans.
C'est Gladys Sabros et Michel Foison, l'album Golden Moments avec Hello New Orleans. Ils vont nous accompagner pendant tout le mois de décembre. Et à la dernière émission, le 30 décembre, ils seront les invités principaux de Sweet Home Chicago en deuxième heure. Voici pour l'instant Fred Chapelier, enregistré, je vous l'ai dit, le 3 novembre dernier au Subok. Salut Fred Chapelier, très heureux de te retrouver ici au Subok.
Avec vous, Fred. Une immense joie. Ça fait quand même quelques années, donc on est super content d'être là.
Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es venu jouer au Subok ici à Coville?
C'était en 1896.
C'est ça.
C'est si je ne
avant Jésus-Christ.
La toute première fois, pour être honnête, non.
La toute première fois, en toute humilité, c'est vrai que c'était pas sous ton nom. Tu étais guitariste de Nina Van Horn.
Exactement.
On était en janvier 2007.
Et Patrick Baldran était là.
Et oui.
C'était le deuxième guitariste.
Il vient de sortir, mais il était là il y a un instant. C'était le deuxième guitariste et tu étais le premier guitariste de Nina Van Horn et tu es revenu ici maintes fois parce que tu as joué ici, Fred, sous ton nom. Tu as joué avec Tom Principato,
ouais,
avec Billy Price.
Exactement.
Tu as joué avec Neil Black, tu as joué avec Nico Van Toussaint, voilà, le beat ici, etc. Bon, ici, tu es reçu avec les chaussons, le
c'est postier. Ça. Il y a mon peignoir qui n'a pas bougé d'ailleurs.
Et puis le rond de serviette et tout.
Ça.
Qu'est-ce que tu penses d'un lieu comme le Subok et on va dire plus généralement qu'est-ce que tu penses de lieux comme ça qui continuent à perdurer, à exister en France? C'est important pour toi?
Ben en fait, la réponse dans la question, c'est des lieux qui perdurent. Donc heureusement qu'il y a encore des lieux comme ça pour qu'on puisse faire de la musique voilà, devant les gens, que les gens soient presque sur scène avec nous, quoi. Je veux dire, c'est une musique, le blues, qui est faite pour ça, c'est une musique de proximité. Donc, les clubs, ça reste essentiel d'avoir des clubs. Les festivals, on adore faire des festivals, mais les clubs, c'est quand même essentiel et c'est familial, c'est chaleureux. C'est un public qui vient pour, pas pour avoir le portable toute la soirée en train de filmer. Voilà, un public qui vient écouter, apprécier, le cas échéant, repartir avec quelques albums. On a besoin encore d'endroits comme ça. Donc voilà, c'est une résistance. Le Soubok fait partie de la résistance, on va dire.
Est-ce que tu es conscient, Fred, qu'à chacun de tes concerts, en tout cas ce soir ça va être vrai, il y a des gens qui vont te voir pour la première fois. Qu'est-ce que ça te fait, après toutes ces années, parce que ça fait quand même quelques années que tu foules les scènes de France et de Navarre, qu'il y a des gens qui vont te découvrir, même pas forcément des jeunes?
Ça fait plaisir. Ça veut dire que ces gens-là, il n'est jamais trop tard. Déjà, il n'est jamais trop tard. Et puis, ça veut dire qu'ils ont entendu parler de moi quelque part, ou qu'ils ont entendu un de mes morceaux à la radio ou sur un disque, et qu'ils ont eu envie de venir au concert voir ça en vrai. Voilà, ça peut faire que plaisir, évidemment.
Est-ce que tu peux nous parler, Fred, de ton expérience avec Jacques Dutronc, et plus particulièrement de la toute dernière tournée qui s'est achevée fin 2022, ça fait pas encore un an. Il y a eu quelques dates qui étaient prévues début 2023, qui n'ont pas eu lieu, malheureusement, pour les gens qui voulaient venir. Mais ces dernières dates avec Jacques, parce que je crois qu'il a pris sa retraite, tu vas peut-être me détromper.
Alors, je vais rétablir la vérité, surtout. Alors, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais il faut noter l'heure exacte. Il est 22h, quasiment.
Pratiquement.
Nous sommes le 3 novembre 2023, c'est
exact.
Ça. Jacques Dutronc a toujours dit qu'il arrêtait la tournée fin décembre.
Fin décembre. Et pourtant, son manager, tourneur, je ne sais pas.
Et la production avait décrété qu'il était en forme et que donc il accepterait de continuer. Sauf qu'il a toujours dit qu'il arrêterait la tournée fin décembre.
D'accord.
Voilà.
Bon.
Et ça, c'est la stricte vérité.
Et alors, la tournée s'est terminée, ça fait déjà presque un an.
Ouais.
Est-ce que pour toi, Jacques Dutronc, c'est un artiste qui est à la retraite maintenant au niveau scène, ou au niveau création, ou au niveau discographie, ou est-ce que ça va continuer parce qu'il est toujours là, il y a toujours des choses à dire?
Alors avec Jacques, tu sais, il a arrêté de chanter pendant 17 ans. Il a fait le Casino de Paris en 92 et 93, il a fait une tournée assez conséquente, alors, jusqu'en 93, et après, il a plus chanté pendant 16 ou 17 ans. Jusqu'en 2010, quand on est reparti en tournée ensemble.
Oui.
Donc tout le monde pensait que c'était fini. Donc avec Jacques, on ne peut jamais être sûr. Tout peut arriver,
dans un
sens comme dans l'autre. Donc moi, si tu veux, comme j'ai la chance de le côtoyer, d'aller très souvent chez lui, de passer beaucoup de temps avec lui, il y a toujours la flamme. Il y a toujours la flamme. Il m'a dit que le cinéma, ça lui pesait maintenant.
Ouais.
Mais la musique, si les conditions sont réunies, je pense que la porte n'est pas fermée, en fait.
Et alors, il y a quand même une grosse part, Thomas Dutronc, dans l'action de Jacques Dutronc maintenant. Toi-même, tu as un nouvel ami en la personne de Thomas, il me semble.
Ah oui, ça fait quelques années. Depuis 2010, déjà. On s'est lié d'amitié.
Cette tournée 2010, il y a eu plus de 80 dates, vous avez joué ensemble.
On a fait 89 dates avec Jacques en 2010, et Thomas est venu de nombreuses fois, et on avait déjà... plus que sympathiser, je veux dire, on était devenus copains et on prenait les guitares et on jouait ensemble avec Thomas dès que possible, parce que ce qu'on sait pas, c'est que Thomas, c'est un grand fan de blues, grand fan de blues. Pour lui, c'est un peu un mystère, c'est-à-dire que, tout comme pour moi, jouer du Django Reinhardt, c'est un mystère. C'est vraiment un autre monde, tu vois. Moi, je suis pas capable de le faire. Et lui...
lui, par contre, il sait faire du blues, alors.
Il sait faire du blues, mais il y a plein de choses qu'il maîtrise pas encore et il me demande, à chaque fois qu'on se voit, il me demande... C'est pour ça qu'on fait une méthode en ce moment, d'ailleurs. On est en train de construire une méthode avec Thomas qui va sortir dans le commerce,
d'accord,
en livre.
Ah oui.
Et aussi, il y aura des vidéos. Enfin, voilà. Ça devrait sortir l'année prochaine, dans le premier semestre. Voilà, Thomas voulait comprendre plein de choses sur le toucher, sur le blues, sur les maîtres du blues. C'est un grand fan de Stevie Ray Vaughan, par exemple, Thomas. Mais il captait pas les petites subtilités du jeu de Stevie Ray. Donc, moi, je me suis fait un plaisir de lui montrer. Et c'est de là qu'est partie l'idée, en fait.
D'accord.
De faire une méthode autour du blues.
Et cette méthode-là, elle va être commercialisée, elle va être disponible pour
absolument.
Les musiciens.
Ah, elle va être totalement disponible dans toutes les librairies, en commande sur tous les sites qui vont bien. Voilà.
Très bien. La sortie est prévue pour bientôt ?
Premier semestre, je ne sais pas encore la date.
Ouais.
Ça dépendra de... Voilà, on a encore un peu de travail.
2024.
Voilà, 2024.
Petite anecdote sur la tournée 2010. Est-ce que tu as réussi à chourer la guitare de Jacques Dutronc, finalement, ou pas ?
Non. Non, mais par contre, à chaque fois que je vais chez lui, ce qui est relativement souvent, fréquent, je joue tout le temps dessus. Ouais. Là, on a fait, par exemple, on a fait un très beau festival avec mon groupe en août dernier à Patrimonio en Corse, et j'ai dit à Jacques. Je lui ai même pas demandé, je lui ai dit je viens pas avec mes guitares, j'utilise tes guitares.
D'accord.
Il m'a dit oui, mais évidemment, il y a aucun problème. Donc j'ai pris toutes ces guitares des années 60, que des guitares qui sont des avions de chasse comme on dit. Donc il a pas eu de choix.
Placé devant à la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée y'avait pas son père. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Pétain, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar, ne fais donc pas le fier là-bas, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Pétain, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Descendu chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Feta, et elle m'a dit d'une voix très sèche, bye bye au hasard, Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Feta, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar.
Fred, on va parler de ton actualité. Mmh. Tu as un album prévu pour février 2024. Ça va sortir chez Dixie Frog, un label avec qui tu es fidèle depuis de nombreuses années maintenant.
Ouais.
C'est un double live, je crois.
Ouais, c'est un double live.
Comment s'est opéré le choix des morceaux et est-ce que ce sont uniquement des morceaux que tu as déjà enregistrés? Est-ce qu'il y a des reprises? Est-ce qu'il y a principalement des morceaux à toi? Quel est le répertoire de cet album?
Il y a beaucoup de morceaux de mon dernier album, Studio, Straight to the Point.
Straight to the Point,
voilà.
Sorti en printemps 2022.
Ouais. Voilà, c'est ça. Comme on avait la chance sur ce concert-là d'avoir les cuivres, ce live vraiment quelque chose en plus de par l'apport des cuivres. Donc il y a quand même beaucoup de titres de cet album. Il y a des titres aussi de Night Work, par exemple, l'album qu'on avait fait avec Billy Price. Il y a une reprise de Roy Buchanan que j'ai pas vraiment enregistré avant. Il y a deux titres de Peter Green que j'avais pas spécialement enregistré à l'époque de Fred Chapelier Plays Peter Green. Donc voilà, mais essentiellement mes morceaux. Mais la nouveauté, c'est que il y a des morceaux, par exemple de l'album It Never Comes Easy, où il y avait pas de cuivre, et là il y a Michel Gaucher a fait des arrangements cuivre.
Alors Michel Gaucher, Eric Mula
et Pierre D'Angelo.
Voilà,
au cuivre.
Donc que des musiciens qui ont joué par exemple avec les Vieilles Canailles.
Qui ont joué avec les Vieilles Canailles, qui ont joué très longtemps avec Johnny, très longtemps avec Eddie Mitchell, qui joue toujours avec Michel Jonas. Voilà, vraiment des pointures. Michel Gaucher, c'est une légende. Hein. Il, Il est à l'origine des chaussettes noires avec Eddie Mitchell, entre autres. Mais il a joué avec un nombre incalculable de superstars.
Qui sont les autres musiciens, Fred, qui vont participer à cet album ?
Patrick Baldrin, à la guitare. Jeremy Tepper, à la deuxième guitare. Christophe Garraud, à la basse. Guillaume Destarac, à la batterie.
Donc que les musiciens qu'on voit ce soir au Sous-Bock.
Exactement, voilà. Exactement.
Et plus les cuivres.
Plus les cuivres, voilà.
Très bien. Cet album donc sort au mois de février.
Ouais, fin février.
Voilà. Quel en est le titre, Fred ?
Live in Paris, tout simplement.
Tout simplement.
Tout simplement.
Parce que ça a été enregistré à quel endroit précisément ?
À Stockholm.
Avec un.
Ça a été enregistré dans un club que je ne citerai pas pour des droits, des raisons de droit.
C'est pas vrai.
Si. Donc je citerai pas le club dans lequel ça a été enregistré, mais c'est bien enregistré lors d'un concert parisien.
D'accord.
Voilà.
Bon.
Très bien. Ça, c'est pour ça que c'est marqué Live in Paris. Voilà.
Très bien. Toujours aussi déconcertant notre ami Fred. Alors dis-moi, sur toutes tes actualités, sur la suite de 2024, est-ce que tu as d'autres projets ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont suivre ? Est-ce que tu as par exemple des collaborations avec des artistes en particulier ? On t'a suivi avec quelques Américains, on t'a pas vu ici au Sous-Bock avec Del Blaine, mais il y a eu aussi, donc on va le rappeler, des gens comme Tom Principato, des gens comme Billy Price, enfin des gens à qui tu as collaboré. Est-ce que tu as d'autres pistes maintenant ? Ou est-ce que maintenant, moi, tu es parti quand même sur... ta carrière, ta propre carrière en tant que leader, Fred.
Bon, alors, vraiment, j'ai quand même... je me suis dit, bon, revenons quand même à Fred Chapelier et sa carrière, et donc son répertoire. Voilà, donc ça, c'est ma priorité absolue. Mais par contre, là, je viens de terminer l'écriture de quelques chansons pour Billy Price.
D'accord.
Qui vient d'enregistrer un album à Los Angeles. Voilà, donc je continue de travailler étroitement avec Billy. Lui écrire des musiques, et il compose des paroles, il écrit des paroles dessus. Et il continue de composer, d'écrire des paroles pour moi aussi. Donc avec Billy, c'est vraiment, ça continue. Ça fait 16 ou 17 ans, on continue de travailler ensemble, étroitement. J'ai aussi écrit et co-écrit des albums avec un chanteur américain immense qui s'appelle Tad Robinson. Voilà, qui est vraiment un grand chanteur de soul blues. On avait un projet, mais pour des histoires de timing, pour l'instant, ça s'est pas fait. Mais il n'est pas impossible que Tad soit en invité sur mon prochain album studio, par exemple.
Super.
Ouais, sur un ou deux titres.
Ok.
Ouais. Donc, je continue à travailler avec quelques Américains. Je travaille avec beaucoup aussi avec Vic Martin, qui était le pianiste de Gary Moore. On travaille sur un album... j'enregistre des guitares pour un album qu'il est en train de produire pour un chanteur anglais. Donc, je fais beaucoup de choses à côté. Beaucoup de chez moi, en fait. Hein. J'ai la chance de pouvoir enregistrer de chez moi. Et
ça, c'est parce que tu as Internet chez toi.
C'est parce que j'ai Internet. J'ai découvert ça il y a un mois et demi.
Ça marche bien, quand même.
Et en fait, c'est pratique. Ah, c'est très pratique.
Vous devriez vous équiper, vous aussi.
Voilà, voilà. donc, beaucoup de collaborations, un peu dans l'ombre, volontairement. Parce que là, je remets vraiment en lumière, depuis Straight to the Point, je remets vraiment en lumière Fred Chapelier et son groupe, quoi.
D'accord.
Voilà.
Il y a une autre actualité discographique en ce moment, avec la tournée de Jacques Dutronc, qu'il a faite en 2022, dans laquelle tu figures.
Avec Thomas,
Fred. Il y a un album qui sort actuellement, double album, je crois.
C'est un double, si je ne m'abuse, c'est un double album live. L'album est sorti.
L'album est sorti.
C'est ça.
Nous sommes en différé.
Il y a bien longtemps, Marco, il y a quand même bien longtemps que cet album est sorti.
J'ai vu 10 samplers déjà de ce truc. Bon, dis-moi, j'ai vu passer, ça va être vraiment l'anecdote par rapport à ce disque. Il y a quelqu'un qui t'a demandé, il n'y a pas très très longtemps sur Internet, comment ça se fait qu'il n'y a pas un DVD. Et ta réponse a été, de toute façon, les gens, ils n'achètent plus de DVD. C'est un peu ça, en condensé, finalement.
Ah, mais les gens n'achètent plus de DVD. Enfin, il y a encore...
Les DVD live de concert.
Les DVD live de concert. Même les films. Il y a encore des gens, il y a quelques personnes qui aiment bien avoir l'objet et qui l'achètent, mais c'est devenu dérisoire, totalement dérisoire. Maintenant, on trouve tout sur les plateformes, sur YouTube, partout. Donc, pourquoi ? Parce que produire un DVD coûte beaucoup d'argent.
Bien sûr.
Ça, il faut employer une société qui vient filmer. Donc, au bout du compte, si c'est pour pas gagner d'argent et voire même bouffer du pognon, malheureusement, c'est comme ça. Même des grosses productions comme celle-là, ils se sont posé la question et si c'est pour en vendre 10 000, je veux dire, l'investissement vaut pas le coup, quoi.
Fred, pour rebondir là-dessus et puis pour aussi avoir ton avis par rapport à un débat qui revient régulièrement, encore une fois, sur la toile, par rapport à ces fameuses plateformes qui vendent toute la musique que tu veux pour 9,99€ par mois.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et à titre personnel, comment tu fais ? Comment tu fonctionnes avec ta propre musique ?
Alors, je me mets à la place des jeunes, en fait. C'est évident que si j'avais leur âge, je ferais pareil. C'est logique, je veux dire, c'est... en 2023, les jeunes, ils ont à disposition Spotify, Deezer, YouTube. Pourquoi ils achèteraient, ils n'ont pas cette culture, les jeunes, d'acheter des albums.
De l'album physique.
Des albums physiques, des CD, ouais. Des 33 tours. D'ailleurs, ils n'ont pas de lecteur CD, les jeunes. Enfin, ils ont plus. Le vinyle revient un petit peu. Voilà, c'est un petit peu redevenu une mode de posséder un lecteur vinyle, enfin une platine disque et d'acheter des vinyles. Mais ça reste quand même marginal. Donc moi, si j'avais leur âge, je ferais pareil. Mais pour nous, c'est difficile parce que du coup, on vend. En gros, en 10 ans ou 15 ans, les ventes ont été divisées par voilà, je veux dire, on a perdu 70% des ventes à peu près, quoi.
Ah oui, quand même.
À peu près, ouais. À peu près.
15 ans.
Ouais. En 10-15 ans, on a perdu entre 70 et 80 pour cent, quoi.
Donc, on vend moins de disques, mais il faut être sur les plateformes parce que tout le monde y va, et puis c'est ça l'histoire.
Il faut, je sais pas s'il faut. Les gens me répondent, mais oui, mais ça permet de découvrir des choses. Ce qui est vrai.
Ouais, c'est vrai,
ça permet de découvrir des choses, mais en attendant, enregistrer un album, le produire, le sortir, le distribuer, coûte beaucoup d'argent.
Ouais,
donc, comment on fait, nous, si on en vend 2000, comment on fait pour rentrer, déjà, ne serait-ce que rentrer dans notre argent, investissement, quoi. Donc, heureusement qu'il y a encore des concerts sur lesquels on peut vendre des albums, parce qu'il y a encore, heureusement, il y a encore un public, je dois l'admettre, d'un certain âge, entre 50 et 80, on va dire. Ces gens-là aiment encore posséder les albums physiques. Donc, voilà, on en vend encore un peu, mais en 15 ans...
Donc ça veut dire qu'on est dans une époque charnière à ce moment.
On est totalement dans une époque charnière. Et d'ici 2, 3, 5 ans, il n'y aura même plus de rayons décédés. Les vinyles, oui. Parce que c'est redevenu à la mode jusqu'au moment où ça ne sera plus à la mode. Mais c'est que ça, de toute façon. Hein. Mais en même temps, on ne peut pas les blâmer, les jeunes. Je veux dire, ils vivent avec leur époque, quoi. Ils sont nés avec les réseaux sociaux, avec les portables dans les mains. Et on leur inculque que... Pour 20 euros par mois, ils peuvent écouter toute la musique qu'ils veulent, quoi. Donc, on peut pas les. Moi, je les blâme pas, les jeunes.
Mais Fred, c'est vrai, tu rejoins un petit peu Curtis Salgado qui disait à la même antenne que, par exemple, Spotify, il citait spécifiquement cette plateforme, que c'était devenu impossible de vendre des disques à cause justement de cette présence omniprésente
C'est une réalité.
Et donc pour lui, c'était, moi je mets 50 000 dollars dans la production d'un disque, je paye tout pour les musiciens, et qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas rentrer dans mes frais,
alors,
c'est impossible.
Alors, rends-toi compte, 50 000
dollars. Et il est chez Alligator Records.
Combien il faut vendre de CD ou de vinyle pour rentrer déjà 50 000?
Et combien il faut de streams?
Voilà. Mais les streams...
On en est à 5 chiffres après la virgule de dollars ou d'euros.
Mais moi, je vais être concret. Tu vois, je parle jamais d'argent, de ce que je gagne. Mais là, je vais te le dire. Pour une fois, je vais dire un truc vrai. Moi, j'ai des dizaines ou des centaines de milliers de streams sur toutes ces plateformes. Ouais. Si je touche 150 euros par an, c'est le bout du monde.
D'accord. Donc, c'est pas juste. On est d'accord.
C'est pour les artistes, c'est totalement injuste, quoi. Totalement injuste.
La rétribution des artistes sur les plateformes, elle est injuste, quoi.
Elle est inexistante.
Tu veux qu'il fallait un million de streams pour avoir même pas un SMIC. Un million.
C'est ça. C'est à peu près ça. Mais je me plains pas. Je me plains pas parce que moi, si tu veux, j'ai eu la chance de vivre une époque vraiment cool, quoi, où il y avait quand même encore des disques qui se vendaient. J'en vends toujours. Moins comme tout le monde.
Ouais.
Moins comme tout le monde, mais. Bon, au moins, on garde la foi, on monte sur scène, on fait plaisir aux gens. Après tout, c'est ça qui compte. Par contre, je suis pas persuadé de faire encore 10 albums, quoi. Voilà. Ouais.
Écoute, l'avenir le dira. Fred, on va tous, en février, chez Digifrog, acheter ton Live in Stockholm. En tout cas, il n'y a pas de problème.
Voilà, Live in Stockholm avec Sim à la batterie.
Ouais.
Et Patrick Topalov à la basse.
Impeccable. Super. Voilà. Merci, Fred.
Merci, Marco.
Bon concert.
Blues goes up my soul. Daddy Johnny Clyde, maybe Memphis Minnie, or Buddy Guy. You gotta give me some cocoa or honey spam, some Jolly Hooker or Bobby Blue Bland. I don't care, I don't care if it's old or if it's new. A Sam Junior Wells, the wolves be howling. He goes hounds to hell. I don't care, I don't care if it's right or if it's wrong. When my mind in need of healing, you gotta give me some Chicago blues. A founding father who never became a star, Jimmy Reed and Ma Rainey too, Robert Johnson singing his Crossroads Blues. I don't care, I don't care if it's hip or if it's cool. Some blues.
C'était l'interview de Fred Chapelier, illustré de quelques titres. Il y avait sur l'album Electric Communion de 2014 le titre Nightwork. Il y avait La fille du Père Noël sur Les Vieilles Canailles, l'album live par Jacques Dutronc avec Fred Chapelier à la guitare. Et puis Blues on My Radio sur Straight to the Point, son dernier album en date à Fred chez Dixie Frog. Voici Beatles Song Story numéro 38 avec Jackie Emery. Beatles Song Story numéro 38. Salut Jackie, ça va ?
Bonjour Marco.
La forme, toujours ?
Ouais, la forme. Alors,
hein, c'est pas dur, non ?
Non, mais c'est pas ça. Mais dans le monde dans lequel on vit tout de suite, des fois, ça commence à peser dans les godasses. Et donc, mais l'approche des fêtes de Noël, que j'aime beaucoup d'ailleurs, oui. Qui sont les fêtes de famille que j'adore, ça me met du baume au cœur.
L'hiver approche, mais en même temps, dans 4 semaines, les jours rallongent. On peut se dire ça aussi, quelque
part. Oui, aussi. Mais enfin, si c'est pour qu'il y ait des conneries encore plus, autant qu'ils soient plus courts.
Bon, en même temps, ce qui est bien, c'est que quand on écoute la radio, on peut faire plein de trucs. On peut bricoler, on peut vaquer à ses propres occupations et puis surtout oublier la misère du monde.
Absolument.
C'est pour ça qu'on est là. On est pas des clowns, mais
En
même temps, on est là pour distraire les gens et puis réécouter de la bonne musique.
Oh, les cœurs.
Ça fait plaisir.
Justement, si tu permets, j'avais une petite chose à dire. J'ai reçu un message d'une amie qui a écouté la dernière émission.
Ah, parce que tu penses que vraiment les gens, ils écoutent nos émissions, c'est ça l'idée?
Ah bah, en tout cas, il y en a une, c'est sûr.
Ouais, on a une preuve.
Donc, à m'avoir un message me demandant à quoi correspondait cette histoire de radiateur, attaché à un radiateur.
Ah, d'accord.
Alors, j'étais obligé de défendre, et là, j'en profite pour les auditeurs, quand même expliquer qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans,
non.
Bien entendu, et que c'est une phrase que j'ai volée à Michel Audiard lorsqu'il y a une question qui est assez pointue et redondante, qui dit exactement, je pose une question, tout va bien. Tu réponds, tout va bien. Tu réponds pas, je t'attache à un radiateur, je te mets un projecteur dans la tronche.
Donc c'est une expression que
c'est tu Bernard Blier dans le film Elle ne cause plus, elle flingue, qui s'adresse à Annie Girardot.
Tout à fait, bah, tu fais bien de parler de radiateur, parce que ça caille ici. Hein.
En plus.
On reprend un petit peu la discographie des Beatles. Et la dernière fois, tu nous avais promis de revenir vers les derniers albums. Et là, on s'en va vers lequel? Abbey Road, Let It Be?
Let It Be. Mm-hmm. Bon, je reviens pas sur cette histoire de
non,
qui est avant, qui est après.
Non, c'est le dernier album.
On va dire c'est le dernier. Certains l'appellent l'album du testament,
ouais,
comme on dit. Donc on va parler de la chanson Dig a Pony, qui se trouve donc sur ce très bel album, Let It Be, qui est sorti en mai 1970. Je voudrais dire quelques mots avant sur cet album, dont j'ai déjà parlé évidemment, mais je vais revenir un peu dessus. Et après le double blanc, hein, les membres, chaque membre des Beatles s'affaire à des projets plus ou moins personnels, et donc McCartney, qui sent les choses, cherche à maintenir la cohérence du groupe. Et parmi les propositions qu'il fait, il propose de reprendre la route, hein, de retrouver la scène pour ressouder les liens. Mais John et George s'y opposent farouchement. Et donc il pense aussi éventuellement à une émission de télévision, peut-être un show. Et puis un concert, mais un concert unique, hein, qui pourrait être... Il y a des idées qui tombent. Lennon propose un amphithéâtre à Tripoli. Enfin bon, voilà. Et finalement, on va se retrouver à Twickenham, hein, du 2 au 17 janvier 1969 pour le projet dit projet Get Back. Voilà. Alors là, les Beatles veulent revenir sur une musique sans phare, hein, une musique sans tricherie, comme le dit Lennon, hein, c'est-à-dire sans
fleuriture,
sans fleuriture, pratiquement dans des conditions de live, hein, sans overdubs, etc. Voilà. Mmh. Pour cela, ils vont notamment faire appel à Glyn Johns, hein, qui est un ingénieur du son, qui avait travaillé avec les Stones, les Who, les Kings, et qui a une bonne patte pour faire ce genre de son. Le son qu'il souhaite, un son assez pur, assez propre et assez sans fleuriture, aucune. Voilà.
Alors là, on va resituer, l'album, tu l'as dit, est sorti en 70, mais il a été enregistré en 69, même début 69, hein, c'est ça?
Bien sûr, oui.
Et donc ça veut dire que ça fait déjà 3 ans que, hormis ensuite ce rooftop concert, il n'y a plus eu de concert des Beatles.
Oui, oui, tout à fait, ouais. Hein,
donc voilà, ça doit commencer à leur peser un petit peu, parce que...
Bah, ça pèse surtout à Paul McCartney, qui est plus un homme de scène et de spectacle. Ouais. On dirait que, comme d'habitude, Ringo a une espèce de neutralité bienveillante, mais George et John sont...
Ça ne dérange pas,
ouais. Ils sont assez opposés. Alors après, on dira quand même qu'ils vont revenir sur scène dans leur carrière solo, chacun, hein,
ben
notamment
oui.
John. Hein. Puis peut-être aussi, c'était pas le bon timing à ce moment-là. Hein, voilà. Sinon, on aurait pu subodorer, mais là, on va dans le cosmos, que si les Beatles étaient restés ensemble encore quelques années, peut-être les aurions de nouveau vus sur scène, c'est possible.
Oui, mais là, tu supputes.
Je suppute, effectivement. Ouais. Hein. Et donc, ils se retrouvent donc dans les studios de Twickenham. Hein. Ils se retrouvent dans les studios de Twickenham, qui sont une espèce de grand hangar glacé, et donc que l'on voit d'ailleurs au début du film Get Back, hein, et qui sortira sous le nom du film Let It Be à cette époque-là, une espèce de documentaire où on aperçoit que les Beatles sont vraiment pas à leur place dans ce grand studio vaste et perdu. Donc dans le début du mois de janvier 69, ils sont à Twickenham, et puis ils sont filmés en permanence 24 sur 24, c'est compliqué pour eux, puis c'est les périodes de grosses dissensions. Donc du coup, ils vont se retrouver à revenir dans le studio d'Apple Records, qui sont dans les sous-sols d'Apple. Ils avaient demandé à Alexis Mardas, qui leur a promis la lune, notamment avec une fameuse table de mixage 72 pistes. En fait, quand ils arrivent, rien n'est fait de tout ça. Il faut ramener un 8 pistes en urgence des studios d'Apple Road.
Promesse.
Voilà, exactement. Donc. Mais du coup, quand ils se retrouvent ici, avec en plus l'arrivée de Billy Preston, hein, le clavier,
oui, j'allais t'en parler.
Qui va être intégré.
Comment ça s'est passé? Il a poussé une porte, il était en train de jouer à côté, ou non, c'était vraiment prévu,
dans l'histoire qu'on nous raconte, et qui est probablement la vraie, il est passé dire bonjour.
Voilà.
Et ouais. Il est resté. Voilà. Et puis c'est à l'initiative surtout de George, hein, qui lui a dit. Il a été vraiment à un moment d'ailleurs question de l'intégrer réellement aux Beatles, hein, ouais, en faisant partie du groupe. Voilà. Et donc, de toute façon, il va être là présent sur beaucoup de chansons qui sont interprétées dans Let It Be, dans l'album Let It Be. Voilà. Donc là, du coup, les Beatles, bah, comme toujours, hein, quand ils se remettent à faire de la musique, qui plus est, comme il y a un personnage qui est présent, la personne de Billy Preston, qui est un ami, ben, les conneries s'arrêtent un peu d'elles-mêmes et ils retrouvent un peu quand même leur humour, leur bienveillance, le bonheur de rejouer ensemble. Et ça va se voir à plusieurs marques. Et si tu regardes le film de Peter Jackson, on l'observe vraiment. Moi, je le trouve, on observe la différence quand ils sont à Twickenham et quand ils sont revenus chez Apple Records.
Donc la vraie camaraderie est revenue parmi les Fab Four.
Absolument, ouais. Donc les enregistrements commencent le 22 janvier. Les Beatles donc ont engagé Billy Preston. Hein, c'est un vieux compagnon hein, qui était déjà avec eux à Hambourg.
Oui, puis en plus, il a un sacré pédigree. Il a joué avec Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles. Oui. Enfin, c'est
une pointure, absolument. Ouais, c'est une pointure.
Malgré sa jeunesse, il est plus jeune que les autres Beatles. Hein. Enfin, il est né en 46.
Oui, absolument. Billy Preston. Ouais. Alors pour revenir à la chanson elle-même, Dig a Pony, c'est une chanson de John. Hein. C'est une chanson de John. L'enregistrement se fait le 22, 24 et 28 et 30 janvier 1969. Le producteur est George Martins, puis Phil Spector. Hein, qui,
et c'est la 73e prise qui est la bonne.
Eh bien là, on ne sait pas.
C'est pas grave.
Mais j'en ai. Alors, sur les prochaines émissions que j'ai déjà commencé à travailler, j'en ai une où je pourrais répondre. J'espère que tu me poseras la question.
Très bien.
Et donc, alors, il faut savoir aussi que les registres d'Apple Records ne sont pas aussi bien tenus que les registres d'Abbey Road. Hein.
Ah ouais.
Donc, on a des incertitudes sur des fois sur les dates d'enregistrement. Voilà.
Qui est-ce qui s'occupe de tout ça? C'est George Martin au départ qui consigne tout ce qui se passe, le personnel,
les dates d'enregistrement. Je pense que à Abbey Road, il y a une personne. Je pourrais retrouver. Le nom d'ailleurs, qui est un peu dédié à ça, hein,
ouais,
qui
d'accord.
surveille tout ça. C'est vraiment la personne qui s'occupe de tout, qui place les micros, qui met les textes, enfin, une sorte d'homme à tout faire. Hein. C'est un type qui a des fois eu des. J'avais dû te raconter une anecdote où une fois il voit la chanson écrite sur un bout de papier et il se demande ce que ça va être et il dit c'est pas vrai, ils vont pas faire un truc comme ça. Et puis en fait, ça se révèle être une très belle chanson.
Mmh.
Et une petite anecdote avec lui. Donc, alors, c'est encore une chanson de Lennon, une chanson du non-sens, comme il les adore. Hein. C'est d'ailleurs la dernière, je crois, qu'il fera dans cet esprit-là.
Alors, quand tu dis du non-sens, ça veut dire qu'il y a certaines paroles qui sont absolument incompréhensibles, volontairement.
Alors, selon la méthode de John, c'est-à-dire on prend des mots, ouais. on les colle ensemble pour voir si y a une signification. Des fois oui, des fois non. Voilà, c'est comme ça, tu te débrouilles avec. Hein. Et comme souvent, il va faire aussi dans cette chanson-là, il va assembler deux chansons pour en faire une. Voilà. Et donc, une des chansons donc, qu'il va prendre, qui s'appelait « All I Want Is You », hein, qui est d'ailleurs donc
on l'entend,
c'est le pont. Hein. D'ailleurs, c'est le titre de travail de la chanson. Hein. Elle s'appellera Dig a Pony après. Elle sera enregistrée dans sa version définitive, et ça c'est important, quand même, lors du concert sur le toit.
Ouais.
Voilà. Et donc, les Beatles ont relevé un défi technique important. Parce que cette chanson est quand même assez difficile à jouer en live. Hein. En fait, malgré les difficultés techniques et le froid de canard qu'il fait, hein, ils arrivent à merveille à enregistrer cette chanson. Et d'ailleurs, John fait un commentaire à la fin de la chanson où il dit « Thank you, brother, my aunt too cool to play the chords », c'est-à-dire « Merci, mes frères, merci les frères ouais, ». Du coup, l'ambiance est revenue. Hein. « Mes doigts étaient trop froids pour jouer les accords ». Voilà. Et tu entends aussi, c'est des petites choses, quand on a vécu dans un groupe, on sait quels sont les petits détails qui font qu'il y a une cohérence, il y a quelque chose qui se passe. T'as Ringo qui rigole parce qu'il dit, il va dire, hold it les gars, attendez-moi,
ouais.
parce qu'il est en train de fumer sa clope et les autres commencent le morceau quand même, tu vois. Voilà, donc on sent qu'il y avait du plaisir à jouer et ça se voit aussi quand tu regardes les images du concert. Donc moi j'aime bien dire que la fin des Beatles ça a été difficile, qu'il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été assez douloureuses, mais qu'il y a quand même une sorte de fraternité qui restait, qui est demeurée quand même. Voilà.
Alors, c'est peut-être aussi, je reviens sur ce que tu disais une fois, avec ou grâce à la présence de Billy Preston.
Aussi, oui, probablement. Ah. D'ailleurs, il le dit, Lennon, dans un de ses commentaires sur les Beatles. Il dit que dès que quelqu'un arrivait, on arrêtait les conneries
ouais.
et on se mettait à la musique
oui.
et ça repartait. Quoi,
ça
voilà.
mieux.
Donc, je ne sais pas si tu l'as vécu, moi je l'ai vécu. Hein, alors, je n'ai pas vécu des dissensions, puis je n'ai pas fait des groupes qui étaient... Mais par exemple... truc un peu tendu, puis t'as quelqu'un qui arrive.
Oui, oui, hop, quand il y a une personne extérieure, pendant ouais. dans le studio de répète.
Absolument.
Tu te dis, on va peut-être pas se donner en spectacle
voilà.
non plus, on n'est plus
ouais,
tout à fait entre nous, donc ouais. On va calmer nos ardeurs et ouais. on va se concentrer peut-être sur
et
la
chacun
musique.
Essaye de faire le meilleur de soi.
J'ai vécu ça aussi, ouais. mais t'inquiète pas. Celebrate anything you want.
Yes, you can celebrate anything you want. Any place you go, yes, you can penetrate any place you go. Everything you are, yes, you can radiate everything you are. Oh, now, high. Roll a stone in where you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone you know.
Alors, sinon pour John, alors on va faire la phrase. Pour John, cette chanson, quelques années plus tard, elle est bonne à...
La poubelle.
Et voilà. Il nous l'a dit aussi sur celle-ci.
Et pourtant, alors je ne sais pas si tu avais prévu de parler de la production et puis des arrangements. Phil Spector n'a pas touché à ce morceau, je crois.
Alors, Phil Spector, c'est peut-être un hasard que j'ai choisi les chansons pour la prochaine émission, ouais. To the Fuzz, parce que c'est deux chansons sur lesquelles il n'a pas touché.
Voilà.
Pratiquement, il les a laissées intactes.
Ce qui fait que sur la version Naked, sortie il y a 20 ans, l'initiative de ouais. Paul, c'est la même.
Absolument. Ouais. Disons que McCartney était plus fâché en ce qui concerne les titres B et surtout Long Road. Où là, il a vraiment mis des choses sirupeuses. Et d'ailleurs, McCartney voulait interdire la sortie de l'album Let It Be. Il n'a pas réussi, et donc il a annoncé juste derrière son départ des Beatles, la séparation des Beatles, avant que Lennon le dise. Ça a été un petit peu, on pourrait dire, le point final de cette histoire.
Ça a quand même été un album qui s'est hyper bien vendu et qui continue à se vendre de nos jours, même dans sa formule initiale.
Il est vraiment très... C'est difficile à dire parce que il faudrait que ça soit quelqu'un qui soit un peu, qui a un peu plus de recul que moi, qui est de toute façon une passion pour la musique des Beatles. Donc, les Let It Be, ça faisait partie de ces albums que beaucoup de fans des Beatles que je rencontre ou d'amis qui aiment beaucoup les Beatles, souvent ont un peu oublié d'écouter. Et puis quand ils l'ont réécouté, ils disent ah ouais quand même. Ouais, tu vois, ouais. Voilà. Alors, en ce qui concerne les covers, je t'ai choisi Saint-Vincent, qui est une guitariste américaine, hein, chanteuse, qui s'appelle Annie Clark dans le civil. C'est son nom de guerre, hein, Saint-Vincent. Et elle est auteure-interprète. Elle fait des reprises quelquefois. Et notamment, elle a cette reprise que moi, alors, par contre, j'aime beaucoup, hein, parce qu'elle le fait avec un son assez sale, assez un peu trash, sur des accords un peu. Voilà, des fois, c'est un peu même limite.
C'est un peu brouillon, ouais, je
trouve. Ouais, des fois, c'est un peu brouillon, mais n'empêche qu'il. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans la façon qu'elle a de chanter la chose. Il me semble que sur le cover, j'ai entendu qu'elle démarrait avec l'hymne américain.
D'ailleurs, oui, complètement. Et on pourrait même conseiller à l'auditeur, après l'écoute de cette séquence, d'aller justement écouter la version vidéo de YouTube. Et puis, on voit comment ça se passe. Il y a des espèces d'éclairs dans ses yeux. J'ai découvert ça. C'est une dame que je ne connaissais absolument pas avant la préparation de cette émission, évidemment.
Ouais. Et je suppose que ça doit être assez difficile de s'approprier une chanson dont le texte est si nébuleux, tu vois.
Oui, oui. Hein, ça gêne pas les Coréens. Hein. Il y a une autre version que tu n'as pas choisie, mais qui est assez hallucinante, où les mecs sont sur le toit et sont fringués exactement comme les Beatles ce jour-là, et ils reprennent ça à la note. Enfin bon, ça n'a pas tellement d'intérêt musicalement pour la radio, mais par contre, pour le visuel, là, moi, je trouve ça tordant.
Ah, par contre, j'ai choisi ce cover, et je ne sais pas, je voulais te le préciser pour l'anecdote. Je ne sais pas si tu connais If Cold Die For You de Red Hot Chili Peppers.
Non.
Ils démarrent leur morceau, qui n'a rien à voir, avec l'introduction de Digger Pony.
D'accord.
Voilà, à écouter. C'est un truc. Voilà.
Celebrate anything we want. Thank you.
it's gotta be just like you want it to.
Big Up Pony, donc ici avec cette reprise, je te laisse redonner le nom de la chanteuse, son nom de guerre, comme tu disais.
Alors, c'est Saint-Vincent.
Saint-Vincent.
Et ouais, en vérité.
Elle vient d'où cette fille-là ?
Elle s'appelle Annie Clark des États-Unis.
Ah ouais.
Elle est du sud des États-Unis, je crois. Ouais. Voilà.
Ben voilà, donc c'était ce Dig a Pony, et puis on reviendra dans la prochaine émission sur le même album avec un autre titre. Merci Jackie, et puis à très bientôt.
Au revoir Marco.
Salut.
Bon courage.
Merci à toi Jackie Emery, numéro 38 de Beatles Song Story. On a écouté Dig a Pony et cette reprise de Saint-Vincent, Dig a Pony, live at All Points West Festival en 2009. Voici un deuxième extrait du disque du mois, Gladys Amoros et Michel Foison, ça s'appelle Slaton Blues. Clapton Blues sur Golden Moments, c'est ainsi que se termine la première heure de ce Sweet Home Chicago numéro 1214 sur le 666. On se retrouve dans quelques secondes avec l'invité de la semaine, Denis Agenais, pour la deuxième partie de l'interview.